Bonjour à chacun et à chacune. C'est bon là? C'est bon. Je crois que les cieux sont ouverts ce matin. Pas simplement parce qu'il manque quelques dalles. J'étais très touché par toutes les interventions qui sont venues. Et avant de donner ce message, je voudrais vraiment dire quelque chose pour des hommes et des femmes qui parfois doutent de leur salut. Si le Seigneur a touché ton cœur, si tu l'as invoqué, si tu as cru que tu avais besoin de son salut, tu es sauvé. Parce qu'à l'instant où ces choses sont faites, l'Esprit de Dieu est venu toucher ton esprit, qui était cette espèce d'organe de réception, de relation avec Dieu, qui était atrophié dans ton âme. À cet instant, il a été touché. Alors tu es sauvé. Alors tu es sauvé. Certes, tu es sauvé en espérance, parce que ton corps est encore un corps de chair, un corps marqué par la chute. Mais ton esprit a été vivifié. Ton esprit a été vivifié. Et peut-être tu te désespères parce que tu vois encore dans ta vie des choses terribles. Tu vois encore des fonctionnements qui n'honorent pas Dieu. Et tu t'es découragé. Et tu as essayé de, par tous tes moyens, de dépasser cela. Et comme tu n'y es pas arrivé, tu as désespéré. Tu es sauvé. Mais laisse l'Esprit de Dieu, après cette phase instantanée du salut, venir renouveler ton intelligence. Le salut est instantané. La connexion, la reconnexion avec le Dieu d'éternité, elle est instantanée. Mais le renouvellement de notre âme, marqué par le péché, c'est un processus. C'est un processus. Et c'est lui qui le fera. Ça veut dire, on a chanté « Viens tout diriger ». Qu'est-ce qu'on a du combat avec ça ? Viens tout diriger. Laissons-le faire. Mais tu es sauvé. Mais tu es sauvé, mais accepte que maintenant, il vienne faire ce travail de reconstruction. Et peut-être, ce processus où tu n'as pas compris que c'était lui qui faisait cette œuvre, t'a amené du découragement et peut-être à la révolte, et peut-être tu es rétrograde aujourd'hui. Alors mon message, il est aussi pour toi ce matin. Les rétrogrades, Dieu s'en occupe. Ceux qui ont abandonné, ceux qui ont peut-être lu des versets d'avertissement dans la parole, et il y en a, et qui ont dit, cette fois-ci, c'est cuit pour moi. Non, je vais te parler d'un Dieu de miséricorde ce matin, de compassion. Mais un Dieu puissant. Et un Dieu puissant, et ce sera par ses voies, et ce sera par Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est vraiment à cœur de dire cela. À un moment, j'avais envie de parler du salut ce matin. Puis je me suis dit, mais c'est un culte. La plupart sont chrétiens, nés de nouveau. Mais je sens qu'il y a ce besoin de dire pourquoi le salut. Alors ce sera pour sans doute plus tard. On ne peut pas faire trois messages à la fois. On va essayer d'en faire un. Ce matin, je voudrais qu'on relise ce très beau texte dans l'évangile de Luc. Jean-Luc nous a invités à lire pour le temps de Sainte-Seine les versets 38 à je ne sais plus combien, dans Luc 10. Et donc, moi, je vais vous inviter à lire juste avant. C'est comme ça ce matin. Juste avant, nous allons lire dans Luc 10, les versets 25 à 37. Et puis je ferai deux autres lectures pour ouvrir ce message. Dans Luc, au chapitre 10. Luc au chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Retenez bien, c'est bien dans la loi qu'est écrit cela, « Et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu et l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, le donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Nous allons lire également dans Lévitique 19, versets 9 à 18. Lévitique, un livre qui parfois paraît un petit peu rébarbatif. Vous allez voir que dans ce livre, chapitre 19, versets 9 à 18, il y dit des choses excellentes, qu'on dirait déjà du Nouveau Testament. Lévitique 9, versets 9 à 18. « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu ne cueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne déroberez point, vous n'userez ni de mensonges ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras point devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Voilà le résumé de tous les commandements. Ça nous est redit plus tard par Jésus. Tous ces commandements sont une insève. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous sommes bien dans la loi. Un troisième texte que je voudrais lire dans Luc chapitre 12, les versets 35 à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne de noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour le service, pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou la troisième heure, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Peut-être vous ne voyez pas bien les liens entre ces textes pour l'instant. Nous allons avancer pas à pas. Je voudrais souligner, avant de commencer ce message, que la loi, à travers les textes que nous voyons dans Lévitique, est une loi d'amour. Nous avons souvent une terrible opposition entre la loi et la grâce, mais je veux vous dire que la loi qui est donnée dans les Écritures par Dieu à Moïse est déjà une loi d'amour. Le texte que nous avons lu le montre. C'est confirmé par Jésus dans Matthieu 22, 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Romains 7 également nous rappelle que la loi est bonne, et que là n'est pas le problème. Ce n'est pas la loi qui est en question. La question est que nous ne sommes pas capables de la mettre en pratique par nous-mêmes et que nous avons bien du mal à reconnaître et que nous faisons donc, comme le docteur de la loi dans le texte que nous avons lu, nous argumentons. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus vient de lui dire, tu as bien dit, alors mets cela en pratique. Et ce sera le titre de mon message, mettre en pratique fidèlement. Mais lui, voulant se justifier, va poser une question supplémentaire. Qui est mon prochain ? Je dis, retenez bien cette question, car la réponse, si vous avez bien écouté le texte, et nous allons y revenir, est un peu surprenante finalement. Alors on va reprendre cette parabole elle-même. Devant les questions difficiles et sans bienveillance de la part de ses interlocuteurs, Jésus va employer une parabole destinée à ce que chacun puisse rentrer en lui-même, sans être accusé directement aux yeux de tous, mais conduisant à s'examiner devant Dieu. Jésus, il est patient avec nous, il est plein de tact avec nous. Il a plusieurs fois employé cette façon de faire. Il aurait bien les moyens, dans sa puissance, de nous balayer d'un revers de main. Il ne le fait pas. Et souvent, les paraboles sont utiles pour cela. Déjà, dans les Écritures, on voit un passage comme ça, où Nathan, le prophète, pour convaincre David de son péché, va employer, vous savez, cette parabole sur l'homme qui avait plusieurs brebis et puis qui va piquer la seule brebis de son voisin. Et David est absolument scandalisé par ce récit, et il dit, mais cet homme mérite d'être condamné. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Vous voyez, cette façon de faire, ces paraboles souvent nous invitent à rentrer en nous-mêmes. Alors, la première lecture de cette parabole que nous connaissons bien, Jésus répond à la question du docteur et l'invite à mettre en pratique ce qu'il a parfaitement appris depuis sa jeunesse. Et Jésus, à travers donc sa question, l'invite à reconnaître que savoir ce qui est juste à faire et faire ce qui est juste, c'est deux choses un peu différentes. Et que notre cœur est bien souvent endurci. Le prochain vis-à-vis de celui qui est tombé sur le chemin est celui qui a exercé la miséricorde. Voilà, ça c'est la première lecture de cette parabole. Jésus a donné la parabole, et puis le docteur a dit, ben oui, il a reconnu que c'est celui qui a exercé la miséricorde. Mais si l'on regarde de plus près, il y a, me semble-t-il, un autre message de Jésus. La parabole commence par « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Alors je pense que c'est deux villes qui nous parlent bien. Et je vous invite à faire un petit retour en arrière par rapport à la conquête de Canaan. Il me semble qu'à la conquête de Canaan, les choses ne se sont pas faites dans cet ordre-là. Ça a plutôt été une montée de Jéricho vers Jérusalem. Conquête de Canaan, quelle est la première ville conquise ? Vous le savez, c'est Jéricho. On aime ce passage avec les trompettes, la louange et les murailles tombent. Et la dernière ville conquise, c'est Jérusalem, la ville de paix, la ville de vie en abondance, le temple de Salomon rempli du Saint-Esprit. Cet état de justice et de paix et de plénitude spirituelle n'a pas duré. Voilà le problème. L'idolâtrie, le culte aux faux dieux, la division du royaume, la dégringolade spirituelle n'a pas tardé jusqu'à ce que le Saint-Esprit se retire du temple. Et je crois qu'il faut voir dans cette descente de Jérusalem à Jéricho cette situation-là. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Un homme qui avait connu Dieu, qui avait cru, qui avait la plénitude. Sa vie s'est dégradée, il est descendu de Jérusalem à Jéricho, il a quitté la ville de paix, il a quitté le lieu de la révélation, il a quitté le lieu de la communion pour descendre à Jéricho, la ville de l'idolâtrie. Autant dire que sa vie s'est ouverte à des esprits, à des choses qui l'ont détruit. Voilà les brigands, les bandits qui ont mis la vie de cet homme dans un triste état. Regardons maintenant les trois passants. Sacrificateur et lévite, la parole nous dit, ils passent outre. Il y a là, je crois, une image de l'insuffisance de la connaissance de la loi pour accomplir la volonté de Dieu. Sacrificateur et lévite sont bien le sacerdoce. Lévitiques sont ceux qui ont été choisis pour offrir les sacrifices selon le sacerdoce lévitique. Et ce texte nous dit que finalement, ils ne peuvent rien faire. Il y a une vision qui dit, oh c'est les méchants, ils n'ont pas fait, etc. Ils sont passés outre. Je crois qu'il y a plus. C'est que devant cette situation, la loi et tout ce qu'on offre selon la loi est impuissante devant cette chute. La loi est bonne, mais moi je suis vendu au péché. Romains 7, verset 12, la loi est donc sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. La loi donne des commandements, mais la corruption du cœur de l'homme l'empêche d'accomplir ce que prescrit la loi, qui pourtant est bonne, et déjà dictée, je le rappelle, par la miséricorde de Dieu. Le Samaritain, quant à lui, fut ému de compassion. Il y a là un marqueur de Dieu, la compassion. Tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, nous voyons devant les foules, Jésus fut ému de compassion. Devant la femme qui perd son fils, Jésus fut ému de compassion. Devant les lépreux de Jéricho, Jésus fut ému de compassion et tant d'autres situations. Le Père même, vis-à-vis de son peuple idolâtre, et je parle des Écritures de l'Ancien Testament, ce peuple qui s'écarte sans cesse de lui, le Père est ému de compassion. Et il ne pourra jamais, même en annonçant des jugements sur son peuple, il ne pourra jamais s'arrêter là et il dira, j'irai te rechercher, même à Babylone, j'irai te rechercher. La compassion, c'est un marqueur de Dieu. Alors, je reviens à la question de Jésus au docteur. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? La réponse est exacte. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Oui, alors si c'est celui, qui est donc celui qui a exercé la miséricorde envers nous ? Qui donc a donc été notre prochain, si ce n'est Jésus ? C'est Jésus le prochain. C'est Jésus-Christ le prochain. Et voyez-vous, dans ce texte, c'est comme si Jésus disait au docteur, celui qui est tombé finalement, c'est toi. Toi qui as reçu la loi, toi qui as eu à cœur de la mettre en pratique, mais toi qui as rajouté à la loi, et toi qui as oublié que la loi, elle est aussi pour nous apprendre la miséricorde. Et Jésus ne fait pas d'accusation. Tu es tombé, c'est quoi être tombé ? Tu es tombé parce que ton cœur s'est endurci. Tu es devenu religieux, tu te crois supérieur parce que tu connais ma loi et mes doctrines. Mais en fait, ton cœur, il est malade, endurci, enfermé. Laisse-moi, nous dit Jésus, être ton prochain qui vient guérir ton cœur, car si vous êtes bien d'accord, c'est ça qui s'est passé. Et qui vient te relever. Ta plaie est profonde, le péché a fait des dégâts, mais moi je suis celui qui ne juge pas et ne condamne pas, mais vient guérir les cœurs brisés. Cet homme qui est tombé sur le bord du chemin, bien sûr que c'est tous les malheureux que nous allons rencontrer. Ok. Ok. Mais c'est celui qui est descendu de Jérusalem à Jéricho et qui a besoin d'être relevé. Et Jésus, le prochain, s'approche, il soigne d'abord les plaies, mais il ne va pas se contenter de cela. Mais il va faire cela parce que c'est le mandat que Jésus, qui nous a rappelé justement dans cet évangile de Luc, en Luc 4, où il est déclaré, avec Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux dont le cœur est brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Et Jésus va dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est là pour accomplir, pour relever celui qui est tombé sur le bord de la route. Cette parabole du Samaritain est aussi un enseignement de Jésus qui annonce l'accomplissement de ce qui est annoncé dans Jérémie 31, et nous allons le lire, versets 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Une loi écrite dans les cœurs. La lettre aux Hébreux confirme ce changement d'alliance en précisant au chapitre 7 que la loi et le sacerdoce lévitique qui servaient précisément les sacrificateurs et les lévites n'a rien amené à la perfection. Donc il faut voir dans ce texte, dans les sacrificateurs et les lévites qui passent outre, c'est que les sacrificateurs et les lévites, selon la loi, ne peuvent rien pour la situation de l'homme tombé dans le péché. Ils ne peuvent rien. Le texte d'Hébreu va très loin, puisqu'il dit que ce sacerdoce lévitique n'a rien mené à la perfection et est donc aboli à cause de son impuissance et de son inutilité. Alors là, ça va très loin. Donc ne voyons pas dans ce texte une espèce d'accusation qui nous rendrait quitte, nous qui sommes du bon côté, en disant « Oh, les affreux légalistes !» Ce texte nous dit que la loi est bonne mais que nous ne pouvons pas, nous ne pouvons rien faire sur la base de la loi. Et que nous avons besoin que le prochain, qui est Jésus, le seul qui peut s'approcher de plaies que sont les plaies de nos vies en conséquence du péché, c'est le seul qui peut s'approcher, et que c'est si Jésus est en nous qu'on pourra accomplir ces choses. La loi ne peut rien faire, mais Jésus annonce qu'il y a introduction d'une nouvelle alliance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et ici, en l'occurrence, nous voyons Dieu lui-même s'approcher de nos plaies. Ainsi, je crois qu'il ne faut pas voir, frères et sœurs, dans ce récit juste une histoire toute humaine d'entraide. Et pourquoi pas ? Mais Jésus qui prépare son peuple à reconnaître son incapacité à aimer et à exercer la miséricorde, tant que Dieu lui-même ne l'exerce pas en venant d'abord faire en nous sa demeure. Sans Christ en nous, nous sommes dans l'incapacité d'exercer la miséricorde. Car ici, vous noterez que ce n'est ni le sacrificateur, ni le lévite, ni le samaritain qui choisissent qui ils rencontrent. C'est Dieu qui met sur leur route celui qu'il a décidé de mettre sur leur route. Et ça, ça change tout. Nous avons souvent une compréhension du prochain, nous étant celui ou celle qui aide l'autre. Mais regardez bien ce texte. Le prochain, oui, là, c'est Jésus. Et nous devons d'abord être dans la position de celui qui est aidé. Donc, il ne s'agit pas d'aider celui, parce que par la chair, on peut faire beaucoup de choses, celui ou celle que nous avons décidé d'aider, mais envers celui ou celle, ou ceux et celles, que le Seigneur, dans sa souveraineté, va placer sur notre route, dans nos circonstances, et qui sans doute va venir déranger notre programme. Si nous ne sommes pas habités par l'Esprit de Dieu, nous ne pourrons pas accomplir ce qu'il nous demande. Il y a plus encore. Si maintenant nous sommes d'accord que ce texte ne cherche pas à condamner la personne du sacrificateur ou du lévite, mais à reconnaître que celui qui exerce la miséricorde et est ému de compassion, c'est Jésus, et que sans lui, nous n'avons pas de miséricorde, alors nous pouvons aller plus loin. Parce que dans ce texte, et je vais le relire, l'affaire ne s'arrête pas à quelques soins. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Il y a plus dans cette parabole. Jésus, dans son ministère terrestre, accomplit ce que les prophètes ont annoncé. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Mais dans ce texte, dans cette parabole, il va plus loin. Il annonce qu'il va confier celui qui est tombé pour des soins qui vont demander de la durée. Il va le conduire à l'hôtellerie. Permettez-moi d'y voir l'annonce de l'œuvre de l'Église. Jésus n'est pas resté sur cette terre. Nous savons qu'il est au ciel, qu'il règne et qu'il confie à son Église, de prendre soin. Et il pourvoit pour cela avec les dons qui sont nécessaires. Et c'est donc à l'Église de prendre soin de ceux qui sont tombés sur le chemin. l'Église est équipée. Parce que c'est le Seigneur qui en est le chef, pour accueillir et apporter des soins qui vont durer. Oh, comme nous aimons, oui, les miracles, une parole et la chose est réglée. Oui, c'est un Dieu qui délivre, il l'annonce en Ésaïe 61. Mais il y a des choses qui vont demander du temps et qui vont demander de la fidélité. C'est pour ça que j'ai ajouté ce texte dans Luc 12, qui déjà est dans Luc 10. Et quand je reviendrai, si tu as dépensé plus, je te le rendrai. Le temps des récompenses, des serviteurs qui ont été fidèles, c'est pour plus tard. Mais aujourd'hui, ce qui nous est demandé, sur ce temps et à l'Église, c'est d'accompagner ceux qui ont, sur lesquels Jésus a mis sa main, pour un temps et une œuvre de restauration. Ça veut dire que nous ne choisissons pas. Nous avons parlé ces derniers temps de l'accueil, de toutes sortes d'accueils. Attendons-nous à ce que viennent au milieu de nous, hommes et femmes, blessés, qui ne connaissent pas le Seigneur pour certains, mais aussi ceux qui, au cours du chemin, ont été découragés et sont entrés dans la révolte parce qu'ils n'ont pas saisi et puis n'ont pas accepté que la main de Dieu se touche, vienne les toucher. C'est un travail qui demande fidélité, humilité, qui demande d'être ému de compassion, pas juste un instant, pas selon un sentiment humain. On a un coup de cœur. Les coups de cœur ne suffisent pas pour redresser des vies qui ont été largement abîmées par le péché. Jésus confie à une hôtellerie, à un corps, pour que ceux qui sont tombés soient relevés, restaurés. C'est une œuvre qui nous dépasse. C'est une œuvre qui nécessite effectivement la présence de Jésus-Christ en nous. C'est une œuvre qui nécessite que nous-mêmes ayons accepté d'être touchés dans nos blessures les plus profondes. Que nous-mêmes ayons accepté de lui donner la main pour diriger les choses. C'est une œuvre longue. C'est une œuvre qui demande, qui nous fera connaître des échecs sur le plan humain. C'est une œuvre qui ne permettra pas qu'on se glorifie, si ce n'est en l'œuvre de celui qui nous a rachetés. C'est une œuvre de renoncement. C'est une œuvre qui demandera qu'on soit gêné dans notre maison. L'hôtellerie, c'est pas rien. L'hôtellerie, c'est pas rien. Faut changer les lits, faut nettoyer, pas une seule fois, plusieurs fois. C'est à l'Église que Jésus-Christ confie cela. C'est à son corps que Jésus-Christ confie cela. C'est une œuvre qui nous dépasse, frères et sœurs. Et si on y va avec nos forces, le découragement ne tardera pas. Le découragement ne tardera pas. jusqu'à ce que Jésus revienne, il appartient à l'Église. Non seulement d'accueillir le pécheur, non seulement d'annoncer l'Évangile, non seulement de se réjouir lorsqu'une âme est sauvée, mais d'accompagner jour après jour, de supporter les blessures que les blessés de la vie infligent, alors que nous-mêmes nous sommes blessés. Nous sommes appelés à nous comporter en économes fidèles et prudents et à être trouvés fidèles. Ce que l'on demande d'un serviteur, ce n'est pas des exploits, c'est qu'il soit trouvé fidèle. Le salut est une chose précieuse et merveilleuse, mais cette vie est appelée à se développer, à s'affermir, afin que ceux qui ont été consolés, relevés par Dieu à travers son Église, puissent à leur tour être utilisés pour consoler d'autres. L'Église est aussi le lieu de relèvement de ceux qui sont tombés spirituellement entre Jérusalem et Jéricho. Combien ont connu Christ? Combien ont connu Christ et n'ont pas persévéré? Parce qu'à un moment, lorsqu'on connaît Christ, il y a une révélation. Mais précisément, parce que notre cœur est illuminé, Dieu va nous montrer des choses que nous n'avions pas soupçonnées. La repentance n'est pas que la repentance initiale. Dieu, lorsque nous sommes nés de nouveau, va nous montrer les profondeurs de la destruction de l'ennemi dans des vies. Et certains, j'allais dire tous à un moment, il y a des choses que l'on n'a pas supportées. Lorsqu'il nous montre jusqu'où ça a été. Frères et sœurs, là encore, il a compassion. Là encore, il a compassion. Il a eu compassion pour Judas et pour Israël. Il a eu compassion pour Éphraïm, qui était comme un gâteau qui n'a pas été retourné, qui demeurait dans l'idolâtrie. Il a eu compassion pour celui qui reconnaît et qui revient. Donc il aura compassion pour nous. Mais acceptons qu'il montre, sinon comment irons-nous aider nos frères? Et je voudrais simplement insister sur ce dernier point de l'engagement fidèle. Nous avons, on se réjouit, beaucoup de personnes sont engagées dans des services. Mais un homme fidèle qu'il trouvera. Oui, c'est le haut corps qu'il a confié, la guérison. Ça nous parle, ça, d'interdépendance, de dépendance, de vulnérabilité aussi, au sein du corps. Et de fidélité, on a besoin les uns des autres, d'une manière ordonnée. Nous avons à faire ce que nous avons à faire simplement, mais nous aimons tellement voir des résultats. Nous aimons tellement dire « j'étais là, j'ai dit ceci, j'ai dit cela ». Il y a une œuvre de Dieu qui est souveraine. Nous avons besoin d'un engagement stable. D'un engagement stable. Frères et sœurs, nous allons vivre des temps où le péché s'accumulant. Car le péché s'accumule, frères et sœurs. n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf une chose, c'est que le péché s'accumule. Ça veut dire que des vies, on est tous pécheurs, mais les destructions occasionnées par l'adversaire dans les vies sont de plus en plus profondes. Sont de plus en plus profondes. Et ce n'est pas de simples proclamations qui parfois pourraient avoir des accents magiques qui régleront les problèmes. Dieu donne une autorité à l'Église. Donne une autorité à l'Église qui est son corps. Il donne des ministères, mais les ministères ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Il n'y a pas de carrière dans l'Église. Il a donné autorité à son corps. Et le corps a l'autorité lorsque les liens que Dieu a voulu au sein de ce corps sont en bon ordre. Alors oui, l'Église a autorité. Elle a autorité pour lier et délier dans les lieux célestes ce qui doit l'être. Mais elle est aussi la servante du Maître pour un accompagnement humble de tout un tas de situations qui ne se régleront pas à deux jours et dont on ne pourra pas tirer des gloires éphémères. Il est venu pour restaurer des cœurs brisés. Et il y a beaucoup de cœurs brisés. Ne nous cachons pas. Mais il le fait. Il le fait dans son Église. Je vais m'arrêter là sur cette parabole. Laissons-nous toucher par le prochain qu'est Jésus pour que nos plaies soient guéries. Nous ne serons jamais complètement guéris, frères et sœurs, tant que nous serons sur cette terre. Parce que la puissance du péché, elle est dans notre chair. Et il y a des plaies qui seront cicatrisées, qui seront toujours sensibles. Mais ça nous permet peut-être, à ce moment-là, de comprendre et d'avoir compassion et d'exercer la miséricorde pour ceux qui nous entourent. Je voudrais simplement vous laisser, pour terminer ce message, ce verset de Michée 6 que l'équipe d'intercession avait fait sienne et que j'aime beaucoup. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde. Et la miséricorde, on ne peut l'aimer que si on l'a reçue, si on l'a expérimentée, si on a connu Jésus, notre prochain, qui est venu s'approcher de nos plaies. Si on est accepté d'être touché dans nos plaies les plus profondes par Jésus, parce qu'il ne se trompe pas, lui. Alors nous pourrons l'exercer. Nous pourrons l'exercer, mais nous pourrons aimer la miséricorde. Parce qu'on sait où on pourra aller la trouver. Je pense souvent à ce verset, vous savez, de cet homme qui va chercher du pain. Ça nous est dit pour la prière. Il va chez son voisin, il demande du pain. Le voisin dit, mais mes volets sont fermés, j'ai plus le temps. Insiste. S'il ne te donne pas parce qu'il a compassion, il te donnera parce que tu es important à la longue. Et pourquoi il donnera? Parce que cet homme ne vient pas chercher du pain pour lui. J'ai rien à donner. Je vais demander pour donner à mon frère. Seigneur, je sais, je n'ai pas de miséricorde dans mon cœur. Je viens la demander à celui qui est le prochain, celui qui en a à revendre, pas à revendre, à donner. Le trône, la rivière de l'Éternel est plein d'eau. Allons demander à Jésus. Jésus, je vois mon insuffisance devant les situations que tu mets sur ma route. Je ne suis pas prêt, Jésus. J'ai envie de faire comme le Lévite. J'ai envie de faire comme le sacrificateur. J'ai envie de passer outre. Mais Jésus, je t'en supplie, donne-moi. Tu as exercé la miséricorde envers moi. Donne-moi, j'en ai pas. Vous peut-être, moi j'en ai pas. Donne-moi la miséricorde. Parce que la situation, tu me la présentes maintenant, Seigneur, mais elle se présente mal, j'ai autre chose à faire. J'ai une paire de bœufs à essayer. J'ai acheté un champ. Je vais me marier. Seigneur, c'est pas le bon moment. J'ai pas le temps. Et puis j'ai rien, je me sens sec. Demande à Dieu. Demande à Dieu pour ton frère. Demande à Dieu pour ton frère. Il est venu te chercher. Il a exercé la miséricorde envers toi. Tu n'en as pas, bonne nouvelle, moi non plus. Mais lui, il en a. Il vit en toi. Alors il va le faire. Cela nous dépasse. On n'est pas capable, frères et sœurs. On n'est pas capable. On n'est pas taillé pour les défis qui sont devant nous. Mais lui, il l'a accompli. Je crois qu'il l'a accompli en nous. Alors, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous prions. Seigneur notre Dieu, tu t'es montré notre prochain, Seigneur. Tu t'es penché sur nous, Seigneur. Nous étions tombés, Seigneur. Nous étions dans la mort, nous étions dans la boue, souillés, Seigneur. Tu t'es penché vers nous. Seigneur, je te loue et je te bénis, Seigneur, pour ton Église, Seigneur. Pour les racheter de l'Éternel, Seigneur. Ceux que tu as relevés. Ceux pour qui tu as brisé des portes, des reins et des verrous de fer. Ceux pour qui, Seigneur, ceux que tu as arrachés, Seigneur, des griffes de l'adversaire, dans la drogue, l'alcool, la prostitution, Seigneur. Ceux que tu as lavés, ceux que tu as purifiés, Seigneur. Et nous étions plusieurs dans ce cas, Seigneur, mais tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés, tu nous as glorifiés plus que cela, Seigneur. Aujourd'hui, tu veux faire avec cette église des rachetés, cette église des estropiés, cette église des purifiés, cette église des rachetés, cette église de ceux qui ont reçu la miséricorde, Seigneur. Tu veux encore guérir, soigner, prendre soin. Seigneur, nous ne savons comment faire. Tu vois nos cœurs endurcis. Aie pitié, Seigneur. Viens dans ton église encore ce matin. Viens mettre ta miséricorde dans nos cœurs. Seigneur, viens mettre ta fidélité dans nos cœurs. Nous n'avons pas de fidélité, Seigneur. Nous avons envie de passer outre, Seigneur, devant les situations, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, je te supplie. Je te supplie, mon Dieu. Viens encore inonder nos cœurs de ton amour pour que nous puissions, Seigneur, accueillir ce que tu as décidé d'envoyer, Seigneur. Pas nos stratégies, Seigneur. Pas ceux que nous avons choisis, pas ceux dont on aimerait s'occuper, Seigneur. Ce que toi, tu as décidé d'envoyer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons eu besoin de ta puissance, Seigneur. Mais exercée, Seigneur, sous ton autorité, au sein du corps. Seigneur, apprends-moi la dépendance de mes frères. Apprends-moi, Seigneur, à être un homme vulnérable. Seigneur, je sais que je le suis, Seigneur, mais Seigneur, viens à notre secours. Tu es notre Dieu. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Rédempteur. Tu es le Seigneur de nos vies. Conduis nos vies, Seigneur. Viens nous transformer. Viens te glorifier. Viens prendre autorité dans nos vies. Amen.